Bon, on va commencer le débat. Donc, comment ça va se passer le... Donc, je vais vous présenter l'orateur. Anthony Ruet, ouvrier chez Stellantis.
Ouais,
et conseiller municipal à Audincourt. Récemment élu avec 16% des voix.
Ouais.
On ne dit pas assez. Donc il va faire une introduction et après, bah, ça sera passé à la discussion.
Voilà. Donc, comme l'a dit Michel tout à l'heure, la période que l'on vit est marquée par les crises. Il y a la crise économique avec les fermetures d'entreprises, les licenciements, le chômage de masse qui pèse avec ses conséquences, la précarité, le développement des trafics qui pourrissent la vie des habitants des quartiers. À l'usine Stellantis où je travaille, les effectifs sont passés en 10 ans de 10 000 salariés à 5 000 aujourd'hui. C'est deux fois moins. Ce groupe multimilliardaire compte encore fermer l'usine de Poissy en région parisienne et vient de fermer l'usine de moteurs de Douvrin dans le Nord. Et c'est la même tendance pour les entreprises sous-traitantes. Ce qui est vrai pour l'automobile l'est aussi pour tous les secteurs de l'économie. C'est une épidémie de licenciements dans la grande distribution, avec Colruyt par exemple, dans les banques et au prétexte que l'intelligence artificielle peut prendre en charge certaines tâches, de nouveaux plans de licenciement sont en préparation. Il y a la crise climatique. Avec le dérèglement du climat, les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents. En Inde, en mai, il a fait jusqu'à 50 degrés, une température létale. Ce changement climatique menace de rendre des régions entières inhabitables et fait des millions de réfugiés. Ici, l'ampleur de la canicule est moins importante, mais on suffoque dans les usines, sur les chantiers et même dans les hôpitaux. Et bien sûr, pas question pour les patrons de réduire si peu que ce soit la production. On a beau être dans un pays riche, des infirmières d'hôpitaux parisiens ont dû coller des couvertures de survie sur les fenêtres pour perdre des degrés dans les chambres. Mais ce qui frappe le plus, c'est la multiplication des guerres et des zones de tension aux quatre coins de la planète. En 2026, on compte 130 conflits armés. L'Ukraine-Russie, Palestine-Israël, dernièrement Iran-États-Unis, auxquels il faut ajouter toutes les guerres dont on entend moins parler, en particulier en Afrique avec, par exemple, le Congo. Pourtant, c'est 6 millions de morts depuis 1994. Toutes ces crises n'en forment qu'une en réalité, c'est la crise du système capitaliste. S'il a pu représenter un certain progrès pour l'humanité au XVIIIe et au XIXe siècle, mais en se développant néanmoins dans la boue et dans le sang, il est entré depuis le siècle dernier dans sa phase de sénilité avancée. La phase impérialiste, une phase de pourrissement. Donald Trump, président des États-Unis et milliardaire issu de l'immobilier new-yorkais, avec sa vulgarité et sa brutalité, est la figure même de la sénilité de ce système. Menace d'annexion sur le Groenland, qui fait pourtant partie d'un pays allié, capture du président vénézuélien Maduro en le faisant passer pour un narcotrafiquant, soutien total à la guerre génocidaire par le gouvernement israélien contre les Palestiniens, étranglement de la petite île de Cuba par un embargo, et surtout, dernièrement, la guerre lancée contre l'Iran, qui a paralysé le commerce mondial avec le blocage du détroit d'Hormuz. Mais ce n'est pas la personnalité de Trump qui nous a fait rebasculer dans la guerre, ce sont les lois du capitalisme. Comme l'a dit Carlos Tavares, ex-PDG de Stellantis, pour augmenter les ventes, il va falloir aller manger dans la gamelle des autres. Cette formule résume à elle seule le fonctionnement du système. Derrière les beaux discours, les formules humanistes, liberté, égalité, fraternité, il y a la concurrence brutale. Et à l'échelle des États où chacun protège les intérêts de sa bourgeoisie, cela prend la forme de la guerre commerciale et finalement de la guerre tout court. Pour maintenir sa suprématie, l'impérialisme américain doit montrer les muscles. Il ne peut pas tolérer que certains territoires échappent au contrôle de ses capitalistes. Dans un système économique en crise, où la concurrence fait rage entre les grands groupes pour vendre leurs marchandises, investir leurs capitaux, accéder aux matières premières, tout se transforme en champ de bataille. Les terres, les mers, les océans, l'espace. Tôt ou tard, les rivalités économiques et la guerre commerciale se transforment en affrontement militaire qui plonge les peuples dans la barbarie. Pour maintenir sa suprématie, L'impérialisme américain n'a d'autre choix que d'être offensif contre ses concurrents européens, japonais, canadiens et contre les États qui ont acquis les moyens de lui tenir tête. La Russie de Poutine, l'Iran et surtout la Chine, dont la montée en puissance économique représente une menace pour les capitalistes américains. La Chine est présentée dans le monde occidental comme responsable des fermetures d'usines, des licenciements, en particulier dans l'automobile. La Chine est présentée comme un impérialisme menaçant. En fait, la Chine est une économie qui monte en puissance et dont l'État échappe à la tutelle des États-Unis. C'est cela qui pose problème aux pays capitalistes qui vantent à longueur de journée les vertus de la concurrence. On pourra en rediscuter. En Iran, Trump est tombé sur un os. Le régime n'est pas tombé et a résisté en bloquant le détroit d'Ormuz et en paralysant le commerce d'hydrocarbures, imposant à Trump de reculer. Mais c'était une erreur de penser que c'était le retour de la paix. Il y a eu 140 frappes cette nuit, hein, en passant. Donc au contraire, Trump et l'état-major américain commandent plus de bombes, plus de drones, plus d'armes. Alors que le budget militaire des États-Unis, avec 1000 milliards de dollars, est déjà de très loin le plus important au monde, Trump réclame une rallonge de 500 milliards. Dans ce système, tout pays voulant tenir sa place doit montrer ses muscles. C'est pour cela que tous les États se préparent ouvertement à la guerre. Ils consacrent des sommes de plus en plus folles à l'armée et ils réorientent l'industrie vers l'économie de guerre. Comme leurs dirigeants ne peuvent pas lancer une guerre sans avoir le soutien de leur population, ils la mettent déjà en condition, préparent les esprits, embrigadent la jeunesse et commencent à réprimer ceux qui refusent de marcher au pas. Le monde ressemble de plus en plus à un baril de poudre prêt à exploser en une troisième guerre mondiale. C'est dans ce contexte qu'aura lieu la présidentielle de 2027. Alors, en voyant tout cela, qui peut croire que l'on peut améliorer le système par petites touches ? Qu'il existe de meilleures façons de gérer le capitalisme. Pourtant, tous les politiciens continuent leur cirque habituel. Ils ont même trouvé une solution miracle contre le chômage et les fermetures d'usines, le protectionnisme. Du RN à LFI en passant par le PCF et Ruffin, ou les politiciens macronistes ou de droite, tous sont d'accord pour désigner l'ennemi, l'étranger. Il faudrait se protéger contre la Chine en mettant des barrières douanières. Mais sont-ils opposés aux exportations des entreprises françaises ? Bien sûr que non. La bourgeoisie peut-elle se développer et prospérer sans acheter à l'étranger et sans exporter, sans placer ses capitaux partout sur la planète ? Bien sûr que non. Le protectionnisme ne protège ni l'emploi ni les salaires. Il est une arme des capitalistes dans leur guerre contre d'autres capitalistes. Alors il ne faut pas marcher dans toutes ces balivernes qui ne sont rien d'autre que du nationalisme à l'opposé de la conscience de classe nécessaire. S'il faut se protéger de quelqu'un, c'est de nos propres exploiteurs, bien français pour la plupart du temps. Bien des camarades d'entreprise, des amis, des voisins nous font part de leur inquiétude. C'est vrai, le capitalisme menace de plonger encore une fois toute l'humanité dans la barbarie. Pour se débarrasser de la misère, de l'exploitation, du gâchis permanent et des guerres, pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, il faut aller vers un système plus rationnel, non plus basé sur la concurrence, mais sur la coopération, sur la mise en commun des richesses naturelles et des entreprises, le communisme. Cela ne se fera pas sans affronter la classe sociale qui profite du système actuel, la bourgeoisie. Il faudra arracher aux bourgeois leurs entreprises, les exproprier, et leur arracher le pouvoir politique. Cela ne peut pas être l'œuvre d'un sauveur suprême. Cela ne pourra pas se faire par le bon vote. Cela ne peut venir que lors de grands moments de révolte qui mettent en mouvement des millions de travailleurs. Comme le dit une de nos affiches, « Si tu veux la paix, prépare la révolution ». Depuis les 15 dernières années, nous avons pu voir de nombreuses révoltes. Les printemps arabes de 2011, le Soudan en 2018, le Sri Lanka en 2022 et plus récemment les révoltes de la Gen Z au Maroc et à Madagascar ou encore les grandes manifestations contre le régime en Iran juste avant la guerre. Mais si les travailleurs ont participé à ces mouvements, nulle part ils ne l'ont fait derrière leur propre drapeau. Pour arriver pleinement à renverser le capitalisme, les exploités auront besoin d'un parti communiste et révolutionnaire dont l'ensemble de la politique tende vers la préparation de ces périodes d'affrontement contre la bourgeoisie. Il devra regrouper des militants dévoués aux intérêts des travailleurs et ayant tiré les leçons des échecs et des succès du mouvement ouvrier. Le Parti révolutionnaire devra avoir de profondes ramifications dans la classe ouvrière et dans l'ensemble des couches exploitées de la société pour pouvoir en exprimer les intérêts communs, les aider à s'organiser pour détruire l'état de la bourgeoisie et prendre le pouvoir. Par le passé, de grands partis ouvriers existaient, socialistes et communistes, et ce, dans la plupart des pays du monde. Ils étaient même organisés à l'échelle mondiale avec les internationales. Au cours du siècle dernier, ils ont failli et se sont intégrés à la société bourgeoise. Aujourd'hui, bien des travailleurs dégoûtés de la politique s'abstiennent ou regardent vers LFI, présenté comme la gauche radicale, voire l'extrême gauche par les médias, alors qu'ils ne se donnent même pas comme objectif lointain d'en finir avec le système capitaliste. Leur programme consiste uniquement à proposer aux patrons d'avoir des commandes d'État, Mélenchon dit notre politique, c'est celle du carnet de commandes, et à leur demander en retour une petite hausse du SMIC à 1700 euros. D'autres se tournent vers l'ERN, un parti ouvertement anti-ouvrier et pro-patronal qui ne propose que de diviser les travailleurs selon les origines. Pour revenir à la présidentielle de 2027, il est essentiel que nous y participions pour nous faire connaître, pour que les travailleurs puissent voter pour leur camp et pour travailler à la construction d'un parti communiste révolutionnaire qui manque à la classe ouvrière. Nathalie affirmera que le vrai pouvoir n'est pas à l'Élysée, mais bien dans les mains de quelques milliardaires, et que tous ceux qui font croire que s'ils arrivaient à la tête de l'État, ils pourraient améliorer le sort des travailleurs sont des menteurs. Elle mettra en avant un programme de bon sens pour sauvegarder les intérêts de la classe des travailleurs, face aux destructions d'emplois, interdiction des licenciements et répartition des emplois partout où les besoins existent, dans les usines, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale et dans tous les autres secteurs de la société. Face aux salaires, pensions et allocations misérables, augmentation massive des salaires avec un minimum de 2200 euros net et face à l'inflation, mettre en place l'échelle mobile des salaires. Face aux expulsions des travailleurs sans papier, liberté de circulation et d'installation pour chaque être humain de cette planète. Levée du secret commercial et du secret des affaires pour rendre publics les comptes de ces grandes entreprises, y compris ceux qui sont cachés. Confiscation des bénéfices de ces profiteurs de guerre, les milliards pour les hôpitaux, les écoles et pas pour la guerre. Expropriation sans indemnité ni rachat de leurs actionnaires, en commençant par ceux de l'industrie pétrolière et des industries de guerre. Elle dira qu'il faut refuser l'unité nationale derrière les dirigeants irresponsables qui emmènent la société vers la guerre, que la seule guerre que les travailleurs doivent se préparer à mener, c'est celle contre le capitalisme pour renverser ce système. Ces élections doivent nous permettre de regrouper ceux qui n'acceptent pas l'évolution réactionnaire de la société. Il faut nous regrouper, tisser des liens, reconstruire un parti communiste révolutionnaire qui permette aux révolutions de demain, car il y en aura, de vraiment changer en profondeur la société. Alors maintenant, la parole est à vous. On est entre nous, n'hésitez pas à dire vos accords ou vos désaccords. Et la question qu'on vous pose, est-ce que vous voulez aider Nathalie Arthaud à faire cette campagne pour le camp des travailleurs?